On a des systèmes, on appelle ça des systèmes à inertie. Et alors le système à inertie, pour l'expliquer, tu prends une roue de vélo, tu sais, par le moyeu, et tu la tournes très vite. Quand tu bouges ta roue de vélo, t'as un effet, t'arrives plus à la tenir. Voilà. Ça, c'est l'inertie. C'est le poids de la roue qui tourne très très vite, qui fait que tu la maintiens plus. Donc, si tu dans l'absolu, quand tu as un objet que tu amènes à tourner très vite dans la direction du nord, chaque fois que tu ressens une petite force sur l'axe de cet objet
C'est-à-dire que t'es
et que
plus.
tu compenses, tu ramènes la roue toujours, toujours à la même direction. Donc tu arrives à obtenir le nord absolu.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Je m'appelle Philippe Manac. Moi, je suis arrivé aux Herpètes, comme on dit, en 77. Donc, bon, j'avais déjà fait une première, donc c'était inhabituel. On était très peu à rentrer après avoir fait une première, parce que le concours, normalement, on avait souvent des gens qui avaient fait une seconde, voire une troisième. Et bon, moi, j'étais dans la limite d'âge, et comment j'allais dire, bah, c'est un peu la pression parentale, on va dire. On a réussi le concours. L'Arsenal, c'était une filière intéressante. Voilà, en discutant, est-ce que j'allais en terminale, est-ce que je rentre aux Herpètes? Bon, j'ai choisi les Herpètes, je regrette pas d'ailleurs, mais voilà, je me disais que j'avais la possibilité, j'avais vraiment le choix, et puis bon. Ouais, c'est ça, en discutant, les voisins. Moi, je me souviens, j'avais un voisin qui travaillait aussi à l'Arsenal, mais il m'a dit, vas-y, t'as possibilité de progresser par la suite, c'est intéressant. Non, moi, je suis rentré. C'est vrai que j'ai fait les Herpètes. J'ai été pris comme électricien. Alors, ça me convenait parce que j'avais déjà fait une première d'électricité générale, comme on l'appelait à l'époque. Donc, je veux dire que j'ai eu une année plutôt facile. Oh, c'était une année en plus, bon, on a 17 ans. On pense beaucoup aux jeunes filles, très peu aux études. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on va dire que c'était une année agréable. C'est-à-dire que j'avais pas trop de difficultés. Voilà, donc j'ai fait mes arpètes comme ça. Et bon, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je suis même. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à l'Arsenal, on avait aussi dès qu'on rentrait aux Herpètes, quand on finissait, on était classé. On était noté, classé. Et les trois premiers d'une promotion d'Herpètes, on leur offrait la possibilité de basculer dans la formation chef de travaux, qui était juste à côté. Donc c'était une filière seconde, première, terminale, etc., qui emmenait à un niveau BTS. Et donc il y avait un petit challenge. Et forcément, moi je suis arrivé quatrième la première année. Donc je suis resté aux Herpètes. Du coup, la deuxième année venant, on pensait déjà. Je me baladais, hein, j'allais dire que j'avais des bonnes notes. J'ai fini major de promo, comme on appelait. Donc, déjà, on nous parlait, les profs, tout ça, qu'il fallait qu'on se projette sur la promotion interne, les cours de technicien, etc. Donc, on avait déjà un peu ça en tête. Et je sais que j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui nous a dit, voilà, généralement, quand vous sortez des Herpètes, vous avez aussi votre service militaire à faire. Pensez à faire reconnaître votre année de service militaire comme une année de forme professionnelle. C'est-à-dire que faites en sorte que vous soyez embauché pendant votre service militaire dans votre spécialité. Et ainsi, vous pourrez compter votre année en expérience professionnelle et vous gagnerez une année sur la présentation au concours. Et on était deux gars, là, qui, un collègue de promotion et moi, qui étions dans ce cas-là. C'est-à-dire que dès qu'on a fini nos arpètes, moi j'ai fait 15 jours sur le travail. C'est-à-dire que je suis sorti des arpètes. Au bout de 15 jours, y avait le fameux mois d'été. Au 1er septembre, je suis allé au boulot en leur disant que j'étais appelé 15 jours après. Donc j'ai fait 15 jours au Capucin, au plateau des Capucins, là, et je suis parti au service militaire. Et j'ai profité des conseils des anciens, déjà, à l'époque, de nos moniteurs, et j'ai fait valider mon année. Donc j'étais embarqué sur un bateau comme électricien, je l'ai fait valider comme expérience professionnelle, et ça m'a permis de passer le concours en militaire. En gros, j'avais dit, c'est une année, on était deux à passer le concours TSO, donc technicien à statut ouvrier T2, comme on appelait là, le premier niveau, quoi. On était deux en uniforme, donc petit souvenir, on était deux petits marins à passer ce fameux concours, donc concours national, hein. Et j'ai réussi le concours. Donc en gros, j'ai quitté le service militaire, j'ai refait 15 jours, cette fois-ci à Lille-Longue, pour repartir en formation. Donc les formations d'électronicien à l'époque, c'était à Toulon. Donc une année scolaire à Toulon pour revenir sur Brest en tant qu'électronicien. Et donc j'ai fait ma première année de formation pour revenir après sur Brest. Et là, je suis allé à l'atelier électronique, commencer vraiment à travailler. Et j'ai commencé à la nef. Navigation, c'était tout ce qui était un instrument de navigation, quoi. Les compas, les locks, les pilotes automatiques, etc. Tout ce qui était spécifique au réseau vent, gyroscope, etc. Et je suis resté là des années et des années. Ce que j'ai apprécié, c'était qu'on allait sur tous les bateaux. On avait différents chantiers qui nous permettaient d'avoir différents contacts. Et sur les bateaux, il y a une chose, c'est suivant l'importance, suivant la taille des bateaux, l'ambiance n'est pas du tout la même. Les contraintes ne sont pas les mêmes, etc. Donc sur un petit bateau, c'est familial. Tu as un petit équipage, tout le monde se connaît, etc. Un grand bateau, c'est déjà une ville, donc c'est plus cloisonné, etc. Donc c'est vrai que moi, ça m'a cette partie relation m'a botté, quoi. Comme le matériel était varié, on avait cet avantage. Et moi, que je considérais comme un avantage, c'est qu'on n'était pas cantonné à un type de bateau. On n'était pas dans une routine de travail à la chaîne. On n'était pas dans une routine même annuelle. On avait souvent la même chose à faire, entre guillemets. Si on dit il faut réparer des cartes électroniques, on répare des cartes électroniques. Mais les pannes ne sont jamais les mêmes. Et comme le matériel était varié, justement, on avait cette variété de travail et de réflexion à mener. Puis il fallait... Moi, je sais que j'ai fait énormément de stages, tout simplement parce que les technologies, les années 80, c'est l'évolution de l'électronique et de l'informatique. Il a fallu qu'on se maintienne à la page. Comme le bateau est un objet flottant en mouvement, si tu as la direction, tu peux avoir aussi son tangage et son roulis. Donc tu arrives à mesurer ta plateforme dans l'absolu, en fin de compte. Mais pour faire ça, tu as toute une électronique, tu as tout un asservissement derrière, etc. Et ça, c'était notre boulot, quoi. Et sur le porte-avions, c'était important parce que, entre autres, quand tu dois faire décoller un avion, il faut que tu t'orientes pour que les vents soient par vent, et puis que tu connaisses aussi quelle est l'amplitude de ta plateforme. Tu feras jamais décoller un avion si le bateau plonge le nez dans la vague, quoi. Et il faudra toujours lui dire, vaut mieux qu'il ait le nez légèrement levé que, voilà. Donc tout ça, toutes ces mesures-là, en fin de compte, il faut se rendre compte que c'est un ensemble de choses qui ne fonctionnent que si tout marche à peu près correctement, quoi. Quand on faisait les formations d'électroniciens, on avait différents modules et où on commençait à spécialiser ceux qui allaient travailler sur la détection aérienne, tout ce qui est radar, etc. Ceux qui allaient travailler sur les sonars, ceux qui faisaient de l'asservissement, on va dire, tout ce qui est nécessaire pour la conduite des canons, des télépointeurs, etc. Donc on commençait déjà à se spécialiser, chacun rentrait, commençait. On avait une formation générale et après, suivant son affectation, on se spécialisait, quoi. Et comme ça, les formations avaient un caractère général, toujours, mais on arrivait rapidement à se spécialiser, on devenait des spécialistes d'un matériel.
Et donc là, il y avait une des... Parce qu'il y a des redondances, hein. Il y a des vies humaines derrière, quoi. Je veux dire, on fait pas n'importe quoi. L'armée n'emmène plus d'avions avec l'élastique qui remonte l'hélice, quoi. Je veux dire, on prend des précautions, quoi.
Quand j'ai commencé, les bateaux, ils étaient en mer toute la semaine. Généralement, ils rentraient le vendredi après-midi. Quand ils arrivaient à l'entrée du goulet de Brest, ils envoyaient un message qui tombait à l'atelier en disant, voilà, on a telle panne et on repart lundi. Donc en gros, nous, on avait le vendredi après-midi, si on ne voulait pas revenir travailler le week-end, on avait le vendredi après-midi pour dépanner. Alors on avait et souvent, c'est ce qu'on faisait. On avait des rechanges qui nous permettaient de dire, ben, au pire, on te change tout le bloc ou n'importe quoi, mais souvent c'était comme ça. Le bateau arrivait à quai, nous aussi on était sur le quai pour réparer, pour qu'il puisse repartir le lundi. Et ça, c'était quelque chose de régulier et que tout le monde faisait, quoi. Ça, c'était quand je suis rentré à l'Arsenal, on va dire les années 80. De 80 à 90, c'est comme ça qu'on fonctionnait.
Voilà, il faut que tout fonctionne correctement. Et quand on voit tout ce qui est nécessaire pour que tout se passe bien, toute cette machine qui est mise en route, là, en gros, elle commence à celui qui livre le pain à bord, ou la farine et l'eau pour que le boulanger du bord fasse le pain, et qui finit jusqu'au plus haut spécialiste qui viendra régler le système d'appontage pour que l'avion se pose en toute sécurité.
Le pilote automatique, il y en avait plusieurs. Il y avait soit le pilote dit classique, comme en gros, qui commande la barre, et puis qui n'était pas très développé, hein, dans la marine. Mais on avait surtout, à cette époque-là, il y avait eu donc toute la série des chasseurs de mines qui, eux, avaient un pilote automatique un peu plus performant. C'était des vrais calculateurs, d'ailleurs, qui leur permettaient de se mettre, quand ils faisaient de la détection de mines, de quadriller, aller au mètre près, une zone. C'est-à-dire que ils dessinaient la zone et c'est le pilote automatique qui les maintenait sur cette zone, au mètre près. Et quand ils faisaient de la détection sous-marine, ils avaient un périmètre de sécurité entre la mine et le bateau. Et en gros, une fois qu'on programmait, ben, le bateau, il y a tel vent, le vent vient de telle direction, il est à telle vitesse, le courant est de telle direction, telle vitesse, le point de sécurité est là. On posait le bateau là, avec les paramètres, et le pilote automatique maintenait le bateau sur ce point pour la sécurité des marins. Et pendant ce temps, les plongeurs des mineurs mettaient à l'eau le robot sous-marin, filo guidé, allait sur la mine, et faisaient ce qu'ils avaient à faire, soit déposer le pain de plastique, ou voir lever le doute d'abord, parce que ça commence par ça, il y avait une détection. Celui-ci, il faut savoir que depuis 39-45, on nous a laissé pas mal de petits cadeaux là, qui ressortent quand la mer est brassée par les grandes tempêtes, et encore, ils trouvent toujours des mines, mais il faut savoir que quand on les voit en photo, on a l'impression, avec tout ce qui est coquillage et goémon qui se sont collés dessus, on a l'impression de voir un caillou. En gros, le but d'un ouvrier de l'arsenal, c'était toujours ça, c'est de maintenir les bateaux en état pour que nos militaires travaillent en sécurité. Et ça, j'ai fait ça surtout les bateaux avec différentes évolutions techniques qui étaient assez impressionnantes, parce que je me souviens quand même quand j'ai commencé, donc on allait sur les sous-marins, il y avait encore un calculateur avec un ampli à lampe, 1980, vous voyez, on commençait à parler de microprocesseurs, etc. Et là, on avait un vieux matériel qui était un calculateur électromécanique, qu'on appelait ça. Et tu expliques ça maintenant à l'école, les gens ils te regardent bizarrement, plus personne ne fait ça. Et pourtant, c'est la base même de la mécanique, l'intégration. On peut expliquer certaines choses par des vieilles technologies aussi.
Et vous ne faisiez que de la réparation ou aussi de la construction neuve?
Non, on ne faisait que de la réparation. On était dans l'entretien. Par contre, on faisait de l'installation de matériel neuf. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de développement. Ce sont les entreprises privées qui faisaient le développement. Donc on était appelé à travailler avec des grandes entreprises. Nous, on avait Alcatel, on avait... la SAGEM, beaucoup de la SAGEM. On avait une petite entreprise qui avait le marché des locks à Marseille qui s'appelait, j'ai oublié, Ben, Lock Ben, je crois, BEN. C'était intéressant aussi cette partie-là, parce que quand on partait sur une série de bateaux neufs, on allait en formation sur ce matériel, donc on rencontrait les développeurs, les ingénieurs et techniciens qui avaient travaillé dessus. On les accueillait aussi à Brest, parce que souvent les premiers de série ils nous accompagnaient aussi. Par contre, ils étaient là pour installer leur matériel, mais nous en amont il fallait qu'on s'assure que tout allait correctement marcher, c'est-à-dire que toutes les énergies arrivaient, que le refroidissement allait bien se faire, etc. quoi. Sachant que, si je prends le cas de l'électronique, on était dépendant déjà du réseau électrique du bateau. Hein. Donc il fallait savoir que sur les bateaux, on n'est pas c'est pas comme à la maison, quoi. C'est pas du 220 volts monophasé. C'était essentiellement des réseaux triphasés ou biphasés. Mais le neutre, ça n'existe pas sur un bateau. Hein. Le neutre, c'est l'équivalent de la Terre quand on est à la maison, mais ici, Donc, on était autour du 115 volts pour nous, voire des fréquences 400, le 60 Hz, souvenir des Américains. Le plan Marshall, on nous a filé les bateaux, mais avec la technologie aussi. Donc, on travaillait, nos tensions de référence, comme on dit, c'était pas le 220 volts, mais c'était le 115-60 et le 115-400 Hz pour nous, un petit souvenir, nos camarades américains.
Pendant que les volcans se rallument et que les coutumes reprennent vie, le vieux monde fait chaque jour un pas de plus sur la route de son relèvement. À Bordeaux, en compagnie de M. Jefferson Caffry, ambassadeur des États-Unis, deux ministres français, M. Pinault et Coudet du Foresto, sont venus accueillir le premier cargo chargé de fournitures envoyé à la France au titre du plan Marshall. On sait que le plan Marshall prévoit pour la première année l'ouverture d'un crédit de quelque 250 milliards de francs qui arriveront sous forme de blé permettant la soudure, de matières premières et d'outillage.
Et tout, donc vous faisiez la réparation, tout était réparable ou pas?
Au début, oui. Au début, oui, tout était réparable. Et après, la technique a évolué. Ça, c'est, on va dire, dans 80, 90, 2000, on était sur des matériels encore réparables avec du stock de composants. Donc ça, on arrivait à faire. Après, on est arrivé avec une nouvelle génération de matériel plus dense électroniquement, avec plus de composants spécifiques. Donc là, on a, bon, il y a eu de l'investissement pour pouvoir continuer à faire l'entretien de ce matériel. Hein. Mais au lieu de le faire à l'atelier, on avait du coup, par exemple, pour réparer certaines cartes électroniques, on était arrivé à devoir faire un atelier spécifique qui s'était spécialisé sur le changement des composants. Parce que bon, la densité de matériel était telle, le nombre de couches sur un circuit imprimé, ça parle pas à une personne, mais au départ, on avait des circuits électriques sur le dessus. Après, on s'est retrouvé avec des plaquettes de 7 couches, donc il y avait des précautions à prendre pour réparer ces cartes, et précautions à prendre, passer par du matériel spécifique. Alors plutôt que d'avoir du matériel spécifique dans tous les ateliers chez tous les électroniciens, ben, on faisait la détection de panne et on emmenait à l'atelier à des collègues qui, eux, changeaient le composant incriminé. Et nous, on reprenait et on procédait à la procédure de contrôle et de validation de cette carte. Mais là, on a commencé par ça. Après, on s'est retrouvé avec des normes qui ont changé, des industriels qui, ben, pour réduire leurs coûts, qui ont continué sur la densité. Et là, on était obligé de repasser par eux. C'est-à-dire qu'ils ne nous vendaient pas les bandes test pour tester qu'une partie du matériel. Il y a deux solutions. Soit on a un matériel complet en rechange et il nous sert de bande test et on peut vérifier. Soit le banc de test, on l'achète à l'industriel qui a développé le produit. Et là, la politique a commencé à changer. Et les bancs de test restaient dans les entreprises et la marine passait contrat directement, achat du matériel, entretien du matériel. Là, on a commencé à voir le travail changer. On ne faisait plus l'entretien jusqu'aux composants, on faisait du rechange. Et cette période a commencé aussi à correspondre à la fin des ARPET, à la fin des cours de TSO, parce qu'ils en avaient moins besoin, moins de spécificité, et plus besoin de connaissances pour changer une carte. Et on fait de la rechange, c'est pas comme réparer une carte, que je veux dire, là, on rentre moins loin. Et là, on a commencé à changer de travail. C'est la période aussi où la marine a commencé à vouloir la vérité des coûts. Parce qu'il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, on allait le vendredi, qu'on était à quai le vendredi midi pour réparer le bateau, il y avait un message, donc il n'y avait pas de contrat. Il n'y avait pas de contrat entre le bateau qui était à réparer et les techniciens ou les ouvriers. Et là, après, à un moment donné, la marine a décidé qu'il fallait connaître le coût par bateau. Donc, pour connaître le coût par bateau, ils ont dit, avant toute intervention, on fera des demandes écrites. La demande écrite ira à l'arsenal et ils nous diront combien ça a coûté. Après, ça a commencé comme ça. Après, ils ont donné une enveloppe budgétaire au bateau. Et il fallait dire combien on allait estimer qu'elle écoutait notre intervention avant d'aller à bord. Et après, ils ont créé des services qui devaient faire ce boulot-là. Donc des marins à terre qui allaient à bord dire s'il valait vraiment que l'arsenal intervienne. Et le coût que devait pas dépasser l'intervention. Sauf ce qu'ils ont oublié de calculer, c'est que tous ces intermédiaires, elles ont commencé à alourdir le fonctionnement, alourdir la facture. Mais c'est, ben, voilà, c'est les personnes, c'est du temps de travail supplémentaire. Moi, j'ai commencé à travailler, j'allais travailler. Après, il a fallu que j'explique ce que j'avais fait par écrit. Après, il a fallu que j'écrive ce que j'allais faire avant d'aller travailler, tout en disant ce que j'avais fait réellement en sortant du boulot. Et on s'aperçoit que le temps de travail, il est triplé, bah, peut-être pas triplé, mais certainement doublé entre une intervention physique et une partie administrative qui s'alourdissait, quoi. Disons que moi, après les années 2000, j'ai vu que ça avait changé, quoi. Et c'était plus dur de travailler, plus dur d'avoir des navires qui venaient de Toulon, par exemple, où on avait beaucoup moins de relations, et plus dur dans le sens où même les marins, et bah, ils savaient qu'il y avait... Il y avait des méthodes de travail différentes. Avant, on travaillait tous de la même manière en France. Voilà. En gros, on avait cet esprit arsenal qui faisait qu'on arrivait par relation, on savait tout ce qui était fait et on travaillait de la même manière. Après les années 2000, tout le monde a commencé à se spécialiser. Les méthodes de travail n'ont plus été échangées. Et par exemple, un sous-marin qui venait de Toulon, on avait des difficultés à avoir le suivi des travaux. Et du coup, on arrivait avec un bateau qui arrivait sur Brest, on disait, mais ça va pas. Et donc, ça commençait à faire du chinchbléau, comme on dit en breton, on commençait à chamailler entre les ports. Donc, avant, on se tenait la main, on s'aidait, après, on a commencé à se chamailler. Ça veut dire que l'esprit de famille a commencé à se dissoudre un peu sur toutes les difficultés, souvent liées à l'argent.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec, et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.